VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. New York, le portugais Antonio Guterres a obtenu aujourd'hui le soutien unanime des 15 membres du Conseil de sécurité pour devenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. Désignation qui devrait intervenir lors d'un vote la semaine prochaine. L'ancien Premier ministre du Portugal était le favori après avoir terminé en tête des 6 scrutins préliminaires. Sa désignation doit encore être approuvée par l'Assemblée générale de l'ONU probablement jeudi prochain, ce qui devrait être une formalité. Antonio Guterres prendra ses fonctions le 1er janvier pour succéder au sud-coréen Ban Ki-moon. Son profil avec Eddie Isango.
Antonio Guterres, 67 ans, a été Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, puis patron pendant 10 ans du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ingénieur de formation, fervent catholique, il s'est décrit comme un homme d'action et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants.
La Cour internationale de justice examinera à partir du 17 octobre la demande de la Guinée équatoriale de sommer Paris de suspendre les poursuites judiciaires à l'encontre du fils du président Teodoro Obiang Nguema Bassongo de Guinée équatoriale. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la Cour, le point avec Nani Talani.
La plus haute instance judiciaire des Nations Unies tiendra des audiences publiques du 17 au 19 octobre 2016, a annoncé la Cour dans un communiqué. Elles auront lieu à La Haye, à quelques jours du procès devant le tribunal correctionnel de Paris, où Théodorine Obiang Nguema a été assignée à comparaître le 24 octobre. Vice-président de son pays, fils du président équato-guinéen, Théodorine Obiang Nguema est accusée par la justice française d'avoir pillé les caisses de l'État et de s'être frauduleusement bâtie en France un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros. Début septembre, il a été renvoyé devant la justice pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis, une affaire qui éclabousse beaucoup de chefs d'État africains et leurs familles. Malabo avait demandé la semaine dernière à la Cour internationale de justice, dans l'attente de son arrêt de fond, de rendre une décision provisoire ordonnant à Paris de suspendre les poursuites pénales contre Théodorine Obiang Nguema qui, selon Malabo, constitue une entrave à l'exercice de ses fonctions dans l'intérêt de son pays.
Soudan du Sud, la communauté internationale dont l'Union européenne et les États-Unis a vivement condamné l'appel de l'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud, Riek Machar, a déclenché une nouvelle guerre contre le gouvernement sud-soudanais. Les précisions de Tatiana Mosso.
Fin septembre, Riek Machar, ancien vice-président sud-soudanais, avait annoncé son intention de lancer une résistance populaire armée contre le régime autoritaire et fasciste du président Salva Kiir. Dans un communiqué commun, l'Union européenne, les États-Unis et plusieurs pays voisins du Soudan du Sud ont condamné les appels de leaders de l'opposition à une reprise du conflit armé. Un accord de paix signé en août 2015 avait fait naître de timides espoirs de pacification du pays. Et fin avril 2016, M. Machar était revenu à Djouba en tant que vice-président pour former un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir. Mais la capitale a été le théâtre de violents affrontements début juillet et les violences se poursuivent dans plusieurs régions. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété le 30 septembre de la situation d'environ 100 000 personnes piégées dans la localité de Yéhi, qui est encerclée par les forces gouvernementales sud-soudanaises.
Tchad, la grève des fonctionnaires, enseignants et étudiants continue dans le pays où le gouvernement a ordonné des réformes draconiennes pour tenter de sortir de la crise économique. Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, affirme que le Tchad compte sur ses partenaires pour sortir de l'impasse financière.
Le gouvernement est dans la recherche de la stabilisation de la situation financière du pays et dans ce sens-là, toutes les recherches, tous les besoins de stabilisation sont mis en œuvre pour donner aux gens satisfaction. Le gouvernement a prôné des dialogues sociaux pour essayer d'établir un canal de communication qui puisse stabiliser la situation. Nous allons vers nos partenaires économiques et financiers qui, à la considération de l'effort que réalise le Tchad dans la paix et dans la stabilisation de la région, espèrent également recevoir cette assistance et cette aide qui lui permettra de couvrir ses acquis sociaux qu'elle a signés avec ses populations.
Madeleine Alingué, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, une double attaque cette semaine contre des soldats gouvernementaux dans la région de Tombouctou et sur l'axe Douenza-Bambara-Maoudé a fait au moins 3 morts et plusieurs blessés. La mission onusienne MINUSMA a également été la cible d'éléments armés, notamment à Kidal, dans le nord-est. De toute évidence, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, les djihadistes n'ont pas jeté l'éponge au Mali.
2 casques bleus tués à Kidal, 4 soldats maliens dans la région de Tombouctou, c'est le bilan des récentes attaques djihadistes contre les militaires maliens et les soldats de la MINUSMA au Mali. Si les soldats maliens sont encore tombés dans une embuscade sur l'axe Tombouctou-Goundam, faisant 1 mort et des blessés graves, sur l'axe Douanza-Bambara-Maoudé, c'est une explosion de mine qui a occasionné la mort de 2 militaires maliens, faisant au moins 5 blessés. Leur véhicule qui était en patrouille dans la zone a sauté sur une mine. Pour bon nombre d'observateurs, ces récentes attaques illustrent à souhait le fait que les djihadistes ne sont pas anéantis au Mali. Même s'ils n'ont plus la même force de frappe, force est de reconnaître qu'ils existent tout de même sur le terrain au Mali, coupant le sommeil aux soldats maliens et autres casques bleus. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, a sanctionné la société de téléphonie Onatel, l'Office national des télécommunications. La société devra payer 5 milliards de francs CFA pour manquement à ses obligations de disponibilité, de continuité et de qualité de service constatées ces derniers jours. Crise migratoire, la Libye est opposée à l'ouverture sur son sol de camps de migrants souhaitant rallier l'Europe. Une proposition des dirigeants européens pour limiter les arrivées via la Méditerranée. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie libyenne, Taher Siala. Un tel projet signifierait que l'Union européenne refuse d'assumer ses responsabilités et les fasse peser sur nos épaules, a estimé M. Siala lors d'une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, à Vienne, en Autriche. Et le chef de la diplomatie libyenne d'ajouter que cette proposition est très éloignée des réalités sur le terrain, alors que la Libye est toujours déchirée par la guerre. Violence en Syrie, où le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité d'un attentat contre des rebelles appuyés par la Turquie. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a averti pour sa part que l'est de la ville d'Alep, la grande métropole du nord du pays, risque d'être complètement détruite d'ici la fin de l'année du fait des combats. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'explosion revendiquée par le groupe État islamique visait un convoi rebelle et a fait au moins 20 morts dans le nord-ouest de la Syrie, près de la frontière avec la Turquie. Parmi les victimes figurent un juge et un autre haut responsable judiciaire du secteur est d'Alep, tenu par les rebelles. Ce secteur pourrait devenir un champ de ruines d'ici la fin de l'année et des milliers de personnes vont être tuées si l'armée syrienne poursuit son offensive, a averti l'émissaire spécial onusien pour la Syrie. Staffan de Mistura a imputé en partie la responsabilité de la situation aux combattants djihadistes du front Fateh al-Sham, qu'il a appelé à se retirer de la zone. L'émissaire onusien a aussi critiqué la Russie pour ses bombardements excessifs, mettant en danger de nombreux civils et la ville elle-même, alors qu'il ne vise qu'un nombre relativement réduit de rebelles. Selon l'ONU, quelque 275 000 personnes sont assiégées dans l'est d'Alep.
Et ici aux États-Unis, plus de 2 millions d'Américains ont été sommés d'évacuer le littoral atlantique à l'approche de l'ouragan Matthew, qui a déjà fait près d'une trentaine de morts dans la Caraïbe et dévasté Haïti. Des précisions avec Anastasie Tudiech.
Distribution de sacs de sable, péage levé et ouverture de centres d'accueil pour les centaines de milliers de personnes évacuées, habituées aux tempêtes tropicales, la Floride se prépare. Selon le Centre américain de surveillance des ouragans, Matthew est le plus puissant depuis des décennies. Il devrait s'abattre sur la Floride cette nuit et pourrait se renforcer en catégorie 4 sur une échelle de 5 à l'approche des côtes américaines. Les eaux pourraient monter jusqu'à 3 mètres et selon les météorologues, il y a risque d'inondations meurtrières ces prochaines 36 heures le long des côtes est de Floride et de la Géorgie. Nous espérons le mieux, mais nous nous préparons au pire, a déclaré Rick Scott, le gouverneur de Floride. Il a averti que les vents pourraient atteindre jusqu'à 240 km/h. 2500 militaires sont mobilisés pour aider à l'évacuation et à l'aménagement des abris.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.